BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, c'est la canicule. C'est la catastrophe sur les marchés. Les taux d'intérêt montent, l'essence est inabordable et il n'y a toujours pas de moutarde dans nos grands magasins. Alors moi, j'ai quand même trois bonnes nouvelles. Je vais vous les dire. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et c'est une émission exceptionnelle, parce qu'on va se focaliser sur les événements de la semaine. Ah là là, vous allez voir, il y a des surprises. Pas mal. Bon, alors, évidemment, personne ne comprend absolument rien, sauf les gens qui viennent dans cette émission et les gens qui la regardent depuis des mois, parce que au fil des semaines, il y a quand même quelques invités très rares qui ont dit des trucs intelligents et qui se sont révélés être vrais. C'est très rare, mais on va faire un best-of et on vous donnera les noms. Allez, on va faire ça sans langue de bois, avec de bons coups de gueule, mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, évidemment, surtout là, avec les conditions de marché qu'on a aujourd'hui et les conditions économiques, il nous fallait des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance, sa fille spirituelle Greta Thunberg. Et lui nous avait prévenu: un jour, vous verrez, nous aurons des week-ends de juin avec des températures de plus de 40 degrés et bientôt de plus de 50 degrés. Et nous ne faisons rien. Alain Pitou, vous nous l'aviez dit.
Exactement.
Senior Advisor ESG, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on va mourir de chaleur? Alors vous, pas du tout, puisque vous êtes venu en slip de bain et en t-shirt. Je dis, pour les gens qui nous écoutent à la radio, vous êtes déjà dans le monde d'après, vous.
Ouais, je voulais vous montrer mon bronzage cycliste.
Ouais. Alors le bronzage, mais pas la musculation.
Non,
il y a encore un peu de boulot.
Faut être
affiché. Je ne sais pas si je relèverai la manche comme vous, mais... Est-ce qu'on va mourir de chaleur?
Je pense qu'on va connaître de plus en plus d'épisodes de ce type. Forte chaleur, sécheresse, suivi d'orages qui dévastent tout. Voilà.
Super.
Ouais, c'est pas mal.
Vous avez d'autres trucs sympas pour le week-end?
CO2, on fait rien. Continuez, Marc.
Bon, l'homme qui devrait être une référence, en tout cas vestimentaire pour vous, il nous arrive directement de Suisse. Alors lui, il vient de terminer un truc important. Il l'a remonté parce que c'est lui, on sait bien qu'il est derrière la Banque Nationale Suisse. C'est lui qui vient de monter les taux d'intérêt pour la première fois depuis 15 ans. Ça fait depuis 2007 que vous n'aviez pas fait ça. Patrice Gautric, oui, qui vous a pris, vous êtes énervé. Je rappelle que vous êtes chef économiste. Votre titre officiel, c'est chef économiste de l'Union bancaire privée. Mais la réalité, c'est que vous êtes le patron de la Banque Centrale. Donc peut-être, vous êtes décidé, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Non, je tape du poing, c'est un coup de gueule.
Ouais, vous étiez énervé. Voilà. Pourtant, l'inflation en Suisse, elle est à 2,9%.
Oui, c'est pas encore dramatique, mais on vient de zéro, de territoire négatif, donc il y a une certaine impatience, effectivement.
Étonnant quand même.
Il y a une grosse vague sur le lac, là.
Ouais, vous êtes réveillé d'un coup, là. Les Suisses se sont dit.
Et puis surtout avec un changement de thématique, c'est de dire que maintenant, on risque de défendre le franc suisse s'il baisse de trop.
Oui, ça, c'est aussi.
Ça, c'est une deuxième grosse vague.
Mais très étonnant de voir une montée des taux d'intérêt alors qu'on a une inflation de 2,9%. Il faut dire quand même que vous restez à des taux d'intérêt négatifs. On est à moins 0,25%.
Oui,
toujours.
Il y a encore une marge de progression, effectivement. Et il y a peut-être aussi un sentiment de panique, comme on le retrouve dans d'autres banques centrales.
Ah, vous avez l'impression qu'il y a un sentiment de panique dans les banques centrales, même en Suisse?
Oui, je crois.
Okay.
Il y a un petit vent.
Elle a fait une entrée remarquée et remarquable dans notre team de gérants. Sous son air calme et tranquille, elle peut décrocher des flèches qui font mouche. Marisol Michel, vous êtes directrice de la gestion sous mandat de Swiss Life Banque Privée. Comment ça va?
Très bien.
Comment vous faites là avec vos portefeuilles là? Vous êtes accroché sur votre siège? Vous avez
le réglage
une ceinture?
Est un petit peu compliqué quelquefois, mais bon, on tient le coup.
C'est bien agité là, c'est même plus une
très
zone
agité,
de turbulence.
Très agité, ouais.
Alors c'est un homme orchestre. Il est culturiste. Il est dompteur d'animaux sauvages, il l'a montré, il nous en a amené un une fois sur le plateau. Il va bien, j'espère?
Il va très très bien.
Il est star des JT, bien sûr, quand il a le temps, il est économiste. Christopher Dembig, vous êtes économiste chez Saxo Bank. Ouais. Quel est le Christopher Dembig qu'on a aujourd'hui?
Le dompteur de chats sauvages, bien sûr.
De chats sauvages. Allez, on démarre tout de suite, on va essayer de vous expliquer, on va prendre un tout petit peu de recul, on va y aller mollo parce que je sais que vous êtes un peu sonné. Allez, on va déjà parler des hausses des taux. Alors on a besoin de vous, les Jedi de l'économie et de la finance, là, parce que la Fed a monté ses taux, elle ne va pas s'arrêter là, elle freine brutalement, elle n'a plus le choix. Alors on va essayer de prendre le temps de donc 0,75% de hausse de taux, et elle annonce qu'elle en fera probablement une autre, peut-être en juillet, de 0,75%. Alors on a plusieurs questions à vous poser, c'est pourquoi une hausse aussi violente? Pourquoi si tard? Et puis ensuite, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne un peu de temps pour essayer d'expliquer le mécanisme d'impact de la hausse des taux, parce qu'on dit beaucoup aujourd'hui que ça ne sert à rien de monter les taux d'intérêt, puisque je prends deux secondes, hein, en fait c'est un problème d'offre, c'est-à-dire que ce sont les prix de l'énergie et de l'alimentaire, et ça c'est lié à la guerre, et finalement travailler sur la demande, puisque la hausse des taux vient réduire la demande, bah, quand on a eu un problème d'offre, ça ne résout pas le problème. Donc vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, pourquoi et pourquoi si tard, Christopher Dembick?
Alors,
pourquoi si fort et pourquoi si tard?
Pourquoi si fort? Je vous avoue que moi j'étais un peu décontenancé. Vous aviez fait un lapsus 0,50. Moi je pensais aussi qu'on était plutôt sur 0,50, 0,75. Indéniablement, et je suis d'accord, il y a un sentiment de panique au niveau des banques centrales. À mon avis, ce qui a fait réagir pour que ce soit si fort à la Fed, c'est tout simplement qu'on a eu bien sûr l'indice des prix à la consommation qui était élevé, mais on a eu juste avant aussi, avant la réunion, on a eu l'indice des prix à la production. Et c'est intéressant l'indice des prix à la production parce que c'est un peu le pipeline d'inflation qui, dans tous les cas, sera répercuté par les entreprises. Un certain stade sur le consommateur.
Vous me donnez, les chiffres étaient de combien sur la consommation, on était au-dessus de 8%.
Exactement, prix à la production autour de, je crois, 11 de mémoire quasiment, si je ne me trompe pas. En tout cas, sur une progression qui est toujours inquiétante et surtout pas de reflux, pas de pic d'inflation. Vous savez, on en parlait il y a un mois ou deux mois de cela, il n'y a pas de pic d'inflation. Donc il fallait agir vite, envoyer un message qui était très clair. Après, il y aura un arbitrage qui va être important pour la Fed, c'est-à-dire qu'elle a certainement compris que sa fenêtre d'opportunité aussi, elle est courte. Parce que dans le même temps, vous avez eu pour la première fois cette année, la contraction des ventes au détail. Vous avez quand même des chiffres inquiétants sur le marché de l'immobilier. On en parlera peut-être un peu plus sur notamment des entreprises qui licencient des grands acteurs de l'immobilier parce qu'ils voient le marché ralentir. Ça, c'est un point de fragilité de l'économie américaine. Donc la Fed se dit, je dois frapper fort parce que j'ai très très peu de temps pour le faire, parce qu'à un certain stade, je serai confronté, et probablement d'ici quelques mois, un arbitrage entre marché de l'emploi, croissance, qui va fortement ralentir, et effectivement inflation. Donc elle n'avait pas d'autre choix que d'aller très très rapidement. Après, indéniablement, je suis d'accord, c'est vrai que ça traduit un sentiment de panique.
Sentiment de panique ou juste décision de mettre un peu, moi c'est mon impression, hein, l'économie un peu sous coma artificiel, de dire, bon bah allez, il faut qu'on passe par cette petite récession, parce que c'est le seul moyen de ne pas faire exploser tous les tuyaux.
J'ai un terme que vous aimerez peut-être, qui est d'une économiste américaine, Diane Swonk, qui parle de récessionnette, justement, pour vraiment traduire, effectivement, il faut ce petit décrochage pour, effectivement, qu'on reparte sur des bases saines. Mais attention, je vais vous prendre un contre-exemple. Dans les années 70, l'économie américaine est rentrée deux fois en récession, deux récessionnettes, mais comme les salariés avaient réussi à négocier des hausses de salaire, vous n'avez pas eu de baisse de l'inflation derrière cela. Donc, ce n'est pas automatique non plus. Et il faudra voir quelle va être la réaction, notamment, sur cette inflation salariale.
On va en parler sur les circuits de l'offre et de la demande. Patrice Gautry, vous avez été surpris et aujourd'hui vous dites il faut frapper encore plus fort.
Alors oui, c'est surprenant parce qu'en fait, faire passer une communication et une pseudo-transparence des banques centrales par un journal, si réputé soit-il, Wall Street Journal, et lier une décision à un indice publié deux jours avant, ça veut dire qu'il n'y a pas de vision de moyen terme. Il n'y a pas de fonction de réaction, il n'y a que de la réaction. Et ça, c'est pas ce que j'attends d'une banque centrale un petit peu sérieuse. Donc là, c'est deux fortes critiques. Alors après, sur l'autre point, oui, on est surpris, mais il y a malheureusement un élément de langage à prendre en considération par rapport à ce qu'a ajouté Christopher, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de ralentir fortement l'économie américaine. Aujourd'hui, en fait, les raisons de cette colère de la Fed, c'est que la demande domestique est trop résistante.
D'accord, c'est ça.
Elle est en trop bonne santé, ce qui est un paradoxe, quelque part. Et donc, maintenant, on pronostique une hausse du taux de chômage et on veut ralentir significativement un demi-point, voire un point de moins de la demande domestique. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autre chose que d'administrer une potion à la Volcker. C'est-à-dire, on casse le cycle.
Ça, c'est les années 80, hein, début.
Les Volcker, c'est les années 80. On était avec 15-20% d'inflation. Et là, effectivement, on a collé, en fait, une récession aux États-Unis. Donc là, c'est un fort ralentissement. Mais une fois qu'on enclenche un ralentissement, je ne suis pas sûr que la Fed soit suffisamment bien équipée pour calibrer ce ralentissement. Et on peut tomber, effectivement, dans le mot qui fait peur à tout le monde. Mais maintenant, et y compris moi-même, je suis obligé de l'employer, qu'on peut tomber en récession un ou deux trimestres. Donc,
mais moi, ça me fait pas peur. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut passer par la récession. C'est-à-dire, ce qui me fait peur, c'est le hard landing, on va en parler. C'est-à-dire de dire, on rentre dans la récession et puis on a du mal à en sortir. Mais passer par la récession, pourquoi ça vous fait peur?
Ça me fait peur parce qu'une fois qu'on a, on vise là directement le consommateur et le marché de l'emploi. Oui. Une banque centrale, elle n'est pas nécessairement bien équipée pour relancer de la consommation, sauf à baisser les taux à zéro. Mais à ce moment-là, c'est une politique de stop and go.
Oui.
Qu'on fait.
Mais c'est là-dedans. C'est ce que semble dire la Fed, c'est-à-dire de dire, je vais les remonter très fort, mais ça m'empêchera pas de les baisser fin 2023 en 2024.
C'est une promesse. Et depuis le début de l'année, la Banque centrale américaine n'a cessé de changer en fait sa communication et de changer son discours. Quelle crédibilité attacherez-vous à quelqu'un qui cale sa politique sur un article de journal et un indice publié deux jours avant ?
Je vous trouve un peu sévère.
Oui.
Parce que je pense qu'ils ont pris beaucoup de retard, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'ils n'ont pas eu de vision, mais je pense qu'aujourd'hui, ils tentent une manœuvre qui est extrêmement difficile. Mais qui est la seule manœuvre possible, il me semble.
Cette manœuvre, le coût de cette manœuvre, pour moi, est très important. Et faire passer un consommateur en mode récession, effectivement, ce n'est pas la garantie de pouvoir relancer l'économie après. On casse le cycle. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important, de nouveau d'ailleurs dans le discours. Et c'est la première fois, ou une des rares fois, que je vois une banque centrale directement amener comme objectif un objectif de taux de chômage.
Oui, et toutes les banques centrales sont dans le même esprit, alors peut-être un peu différent.
Heureusement pas, parce qu'elles n'ont pas de discours, elles ont un discours sur l'inflation. La structure de l'inflation américaine est beaucoup plus liée à la demande domestique, alors que la structure de l'inflation en Europe est beaucoup plus liée à l'importation et au prix des matières premières.
Très intéressant. Marisol ?
Mais je crois un petit peu comme vous, Marc, qu'ils n'ont plus trop le choix. Donc, c'est vrai que la Banque centrale américaine a trop tardé à remonter ses taux et à prendre la mesure du problème. Mais là, en fait, l'inflation n'arrête pas de monter. On avait eu une petite accalmie, en fait, au cours du mois d'avril, vous rappelez.
Oui.
Le chiffre d'inflation, les prix à la consommation avaient légèrement reflué. Donc, tout le monde était content et le marché obligataire s'était mieux tenu. Les taux avaient reflué. Et puis, en fait, dès le mois de mai, on a eu à nouveau une progression du chiffre des prix à la consommation à 8,6%. Et donc, on ne peut plus faire autrement que de vraiment mettre le paquet pour casser cette inflation et surtout éviter de rentrer dans cette boucle prix-salaire qui crée un cercle vicieux. Donc, si l'inflation reste élevée trop longtemps, les salariés vont demander des grosses augmentations et donc entretenir l'inflation et ainsi de suite. Et là, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que le marché de l'emploi est quand même assez tendu.
Très tendu.
Avec un taux de chômage.
Ils sont en plein emploi. Hein.
Voilà, à 3,6%, qui est pratiquement le taux de chômage incompressible. Et puis des hausses de salaire qui commencent à être assez élevées, puisqu'elles dépassent les 5%. Donc, il faut vraiment faire quelque chose pour refroidir ce marché de l'emploi et refroidir la machine globalement.
Mais Powell a eu cette phrase absolument hallucinante. Qui est peut-être un peu passé inaperçu, en disant que ce n'est pas les hausses de salaire qui sont responsables de l'inflation, ce sont le rythme des créations d'emplois. Et donc, objectif supplémentaire, il target maintenant, c'est-à-dire il met comme objectif les variations mensuelles de l'indice des prix, qui, depuis le début de l'année, est imprévisible. Il n'y a aucune crédibilité à prévoir cela. Il cale la politique monétaire là-dessus, et il cale la politique monétaire sur l'ouverture des nouvelles créations d'emplois. C'est même pas le chiffre de création d'emplois, c'est pas le chiffre des salaires, ce sont les créations d'emplois. Donc moi, quand j'entends ce discours-là, je suis inquiet et on change de régime monétaire et c'est quelque chose effectivement qui risque d'être un petit peu dramatique sur les mois ou les trimestres à venir et il aura bien du mal à faire repartir l'économie américaine s'il la casse.
Juste pour terminer, avant de passer la parole à Alain, moi j'étais très inquiet avant. Parce que je pensais qu'on avait une politique qui était trop expansionniste avec un cycle de l'économie qui était très fort. Là, je pensais que c'était vraiment totalement absurde. Hein. Et d'ailleurs, ça a mené à tous les excès qu'on vient de connaître et toutes ces bulles dont on a parlé qui sont en train d'exploser. Aujourd'hui, je considère qu'on est en train d'essayer de remettre ça sur les rails. Alain,
ça a été la réaction initiale des marchés, 75 points de base, et c'est pas là à toutes les réunions de politique monétaire, et c'est là où le marché est obligataire et le marché d'action a réagi parce qu'en fait, effectivement, comme vous le dites, on prend en cause ce rythme d'inflation, on adresse effectivement ce problème, on essaye de résoudre ce problème d'inflation, mais la méthode utilisée et les critères qui sont utilisés ne sont pas les bons.
D'abord, le fait qu'ils aient tardé autant, je pense qu'il y avait tout un tas de politiques budgétaires qui avaient été mises en place par les gouvernements successifs et ils ne voulaient pas arriver et casser ça à ce moment-là. C'est-à-dire, à la fin du mandat de Trump et au début du mandat de Biden, c'était assez difficile de monter les taux à ce moment-là. Et du coup, ils ont pris ce retard qu'ils vont payer maintenant. Et moi, une inquiétude que j'avais en début 2022, c'était mauvaise coordination des banques centrales. Mmh. On est en plein dedans. Action trop... trop rapide, enfin finalement assez trop rapide, trop forte, un moment où il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à voir à droite à gauche des signes de ralentissement de l'économie. Et là où je pense qu'il faut faire attention, c'est soft landing, hard landing, ça va être quand même difficile de doser parce que les marchés vont aller beaucoup plus vite. Et moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur la crédibilité des banques centrales, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu pendant très longtemps ces banques centrales qui étaient relativement coordonnées, il n'y avait pas de problème parce qu'on avait tous un peu la même vision de l'économie.
Coordonnées mais délirantes.
Oui, d'accord, mais elles étaient coordonnées. Oui, d'accord,
mais la crédibilité, elles l'ont perdue parce qu'on continue à distribuer de l'argent qui a été investi dans des cryptos et des NFT.
Exactement, mais maintenant, il faudrait aussi se coordonner pour réduire la pression. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des surprises de la Banque Centrale Suisse, on voit cette hausse très forte ici, on voit d'autres banques qui ne font pas ça, hein. La Banque du Japon ne fait pas ça, la BCE est en plein doute.
On va en parler, mais parce que la situation des différents banques n'est pas la même.
Et oui, mais, non, mais on avait déjà la situation précédemment. Quoi, vous voyez. Donc, je pense que cette problématique...
C'est ça qui vous inquiète. Ce désalignement en fait, d'intérêts.
C'est ça, et je trouve que c'était un risque qui était fort pour 2022 et que finalement qui commence à se matérialiser. Et c'est pas bon pour les marchés parce que Powell joue à trop court terme. C'est-à-dire que on commence déjà à parler de baisse des taux en 2024. Ouais. C'est aberrant.
Pourquoi?
C'est-à-dire que parce que c'est trop tôt parler de ça. Enfin, on
si commence c'est un stop and go.
Oui, mais enfin,
si on fait du soft landing, c'est bien d'expliquer qu'on veut juste passer par cette phase-là.
Enfin, je trouve que c'est aberrant.
Christopher Bembic. Je pense qu'il y a un point où là où je serais divergent, c'est
divergé.
Tout à fait. En revanche, moi, je vois une coordination des banques centrales sur toute la semaine. Alors, en fonction, bien sûr, des données macroéconomiques dans chacune, mais sur toute la semaine, vous avez eu, si on résume, l'Australie, la banque centrale australienne, qui a été effectivement un peu plus au quiche, qui a laissé entendre qu'elle allait augmenter beaucoup plus les taux. Banque centrale de Hongrie, qui a augmenté ses taux de 50 points de base dans une réunion qui n'était pas prévue. On a bien sûr eu la Fed, la BCE, la Banque nationale suisse, donc la Banque centrale d'Angleterre. Et tout ça intervient après les réunions de printemps du FMI, où tous ces banquiers centraux ont certainement beaucoup plus échangé. Donc, à mon avis, là où il y a un point qui est positif, c'est plutôt qu'il y a une coordination qui commence à se mettre en place.
Non.
Ah si, ils sont
le
tous
Japon,
très
ils sont pas coordonnés.
Oui, mais bon, voilà,
ils sont pas coordonnés parce qu'ils ont des situations qui sont différentes.
Oui, d'accord.
Exactement.
Il y a que la Chine qui, elle,
ça, elle aussi, situation différente. On va justement passer.
La Chine aussi, mais
alors, situation est différente.
On va parler des différentes zones. Je m'adresse à Christopher et à Patrice. Juste expliquez-nous l'histoire de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit beaucoup, j'entends beaucoup de gens qui disent ça sert à rien d'augmenter les taux parce qu'on a un problème d'offre et pas un problème de demande. Et Patrice dit non, on a un problème de demande aux États-Unis. Explique.
Alors oui, on a un problème de demande qui est très clair effectivement aux États-Unis. Au niveau plus global européen, c'est un problème d'offre. Le problème d'offre, il y a à la fois du temporaire où les banques centrales n'ont pas à s'inquiéter et du plus permanent. Et je pense que sur le permanent, Alain rebondira. Sur le temporaire, c'est à la fois quand vous avez un peu de stop and go au niveau des opérations et de la logistique, transport, tout ça. Grosso modo, on l'a vu depuis 2020. Vous pouvez faire un confinement, ça redémarre assez vite, que ce soit et ou même le cas du transport international avec le canal de Suez lorsque ça avait été bloqué en mars 2021 de mémoire, finalement ça repart assez vite, donc vous pouvez avoir des pressions inflationnistes temporaires, mais ça c'est pas l'inquiétude. Pour moi, le problème au niveau de l'offre qui est problématique, c'est sur les matières premières au sens général, et notamment sur l'énergie. Sur l'énergie, on voit très très bien, vous avez un problème de CAPEX qui date d'avant la pandémie.
D'accord.
Qui sera pas résolu.
Mais en quoi l'argument qui consiste à dire la hausse des taux d'intérêt, ça sert à rien pour casser finalement un problème qui est un problème d'offre?
Sur un problème d'offre, la seule logique, et peut-être la Banque Centrale Suisse justement pense à cela, c'est notamment le taux de change, c'est le relais du taux de change. À mon avis, c'est aujourd'hui la logique qui est principale et beaucoup de banques centrales laissent plus ou moins entendre. On augmente les taux, notamment pour soutenir nos taux de change. C'était l'argument de la Banque Centrale Hongroise cette semaine, c'était très clair, et elle est très dépendante en termes d'importation énergétique, donc ça vaut pour l'Europe aussi.
Vous, Patrice, vous dites qu'il y a un problème d'offre, c'est le prix du pétrole, l'alimentaire et autres, mais aussi aux États-Unis, il y a un problème de demande qui est trop forte, et donc la hausse des taux, là, elle joue sur la demande.
Oui, c'est clairement ce qui est visé par la Banque centrale. Alors, c'est pas nécessairement, je pense, la meilleure des politiques, mais quand on voit effectivement que la consommation est alimentée à la fois par des hauts revenus qui disposent d'une épargne importante et de bas revenus qui, pour faire face à l'inflation, s'endettent, donc en définitive, on va faire peser le poids de l'ajustement de l'économie américaine sur la partie des revenus qui se sont endettés ou du ménage qui se sont endettés pour pallier le supplément d'inflation.
Donc là, on touche la demande.
Donc là, on freine sur la demande. Et effectivement, c'est vraiment le type de surchauffe. Alors, il y a des marchés, effectivement, qui justifient, en Europe d'ailleurs aussi, qu'on régule les taux, c'est-à-dire le marché immobilier. Mmh. Ça fait plus de 2 ans avec le Covid, ça a été, avant la structure et la conjoncture était bonne, le Covid a accéléré encore avec des taux d'intérêt qui sont faibles et maintenant, je dirais, un service de la dette qui peut être problématique. Donc on va voir effectivement que les banques centrales vont amener les banques commerciales à resserrer leur offre de crédit.
Ça a déjà commencé.
Ça a déjà commencé en Europe. Ça va se faire maintenant aux États-Unis, puisqu'en plus, M. Powell a dit que les conditions financières n'avaient pas suffisamment monté.
Très bien. Allez, on va parler, il reste peu de temps, on va essayer de faire un tour d'horizon très rapide de l'économie mondiale et on va se poser une question en fait que vous posiez Alain, hein, c'est le désalignement des différentes politiques qui est lié au désalignement des différentes situation. Si on faisait un petit topo général...
Alors, moi, je pense que l'économie américaine a déjà commencé à ralentir. Je pense que l'immobilier est un gros vecteur de ce ralentissement. Les écartements de primes de crédit sur beaucoup d'émetteurs ont commencé à se matérialiser. On est au plus haut des taux immobiliers aux États-Unis depuis 2008. Hein. C'est quand même pour les particuliers qui s'endettent pour acheter, ça devient problématique. L'Europe, bon, on en parlera tout à l'heure. Après, moi, je pense que la situation actuelle génère beaucoup de problèmes aussi dans les pays émergents. On l'a vu, c'est marqué au Sri Lanka qui a carrément fait défaut. Il y a quand même pas mal de pays...
Dans les pays émergents qui sont non producteurs de matières premières, parce que les autres en profitent quand même pas mal.
Oui, on profite pas mal, mais il y a quand même pas mal de pays qui sont très dépendants de l'agriculture, qui souffrent avec la sécheresse et compagnie, et qui souffrent aussi de l'approvisionnement venant de Russie ou d'Ukraine, par exemple. Donc, on a quand même des zones de fragilité très fortes, avec des devises qui ont également très fortement monté, parce que c'est le sujet des banques centrales aujourd'hui, c'est d'ajuster, c'est de réagir par rapport à ces problèmes de devises. On le voit sur des situations de grands pays comme la Suisse, mais il y a plein de pays qui sont en grande difficulté parce que leurs devises ont fortement souffert. On a des écarts de presque 60% entre devises. Donc, des situations qui sont quand même extrêmement tranchées. Et je pense que le sujet maintenant, c'est quand est-ce que ça va craquer, hein, parce qu'on a quand même des écartements de spread sur la dette émergente qui sont également au plus haut depuis 2008.
Donc, on a parlé pays émergents, on a parlé États-Unis, la zone euro et l'Europe. Patrice.
Alors, fragmentation, là, c'est le terme, effectivement, vous l'avez évoqué. C'est-à-dire que la chronique que je vois, c'est que l'on peut prévoir, c'est des zones de fragilité. On l'a déjà vu, hein, des variations d'un trimestre sur l'autre, d'un pays à l'autre, qui peut être légèrement négative. Donc, c'est des zones de récession technique. Okay. Donc, ça, on peut le voir, effectivement, peut-être dès le deuxième semestre, notamment pour des pays comme l'Allemagne, qui peuvent être fragiles si, effectivement, le robinet du gaz devient de plus en plus fermé et si, effectivement, le poids des taux pèse sur la consommation, la demande domestique. Et aux États-Unis, le risque pour moi, il est d'un -0,2, -0,3 en fin d'année ou au premier trimestre 2023. Donc on a en fait une sphère de ralentissement, une bulle de ralentissement qui est en train de se promener d'un pays à l'autre. C'est la Chine, ça va passer probablement à l'Europe et ça risque de passer ensuite aux États-Unis.
Mais cette bulle de ralentissement, elle a un avantage, c'est qu'elle peut faire exploser les bulles et notamment sur les marchés financiers et l'immobilier, non ?
Alors,
vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Oui, dans le resserrement, c'est utile effectivement de ramener de la monnaie au centre du système, parce que là, on en avait
perdu un petit peu.
Mais par contre, ça se fait avec un coût pour le consommateur et un coût pour le marché de l'emploi. Et ça, je trouve ça un petit peu difficile et cher payé.
Christopher Dembick, comment ?
La Chine, j'imagine.
Oui, la Chine.
Sur la Chine, je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux écoles en interne en Chine. Vous en avez une école qui a dit, depuis 2015, finalement, on n'a pas assez libéralisé. Donc, il faudrait aller plus vite. Et vous avez une école qui dit, oui, mais finalement, on doit revenir à un État qui contrôle davantage l'économie. Et si vous regardez les dernières mesures, c'est cette dernière école qui l'emporte. C'est-à-dire, aujourd'hui, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, la Chine ouvre les écoutilles. C'est-à-dire, vous avez des aides aux consommateurs qui sont mises à la table, des aides pour notamment le secteur automobile qui est essentiel en Chine, baisse de la TVA, etc. Vous avez une myriade de mesures qui ont été prises dans un laps de temps qui est assez incroyable parce que finalement, si vous regardiez encore fin d'année dernière, vous aviez une forte hésitation sur ce qu'il fallait faire. Alors bien sûr, la Chine, il y a toujours un timing politique, il ne faut pas se leurrer. Le timing politique, c'est bien sûr à l'automne, vous avez la reconduction quasi certaine du président chinois, quasiment président à vie. Et donc, effectivement, vous allez avoir, pendant les prochains mois, une myriade de mesures économiques qui vont permettre cette relance économique. C'est assez intéressant, d'ailleurs, dans la presse...
Ça peut être une relance très forte.
Hein. Ça peut être une relance très, très forte, dont on bénéficiera en 2023.
Exactement. Et du coup, le désalignement dont parlait Alain peut se faire de façon positive. C'est-à-dire qu'on peut avoir des locomotives qui redémarrent, alors qu'il y en a d'autres qui commencent Non ?
En passant par un creux qui peut être quand même assez problématique.
Mais on y est là, non ?
Oui, non, parce qu'on commence à voir simplement des accidents de crédit aux États-Unis. Hein, Revlon qui fait, fait appel au marché. Enfin, bon, bref. Mais donc, on a quand même ce sujet. Quoi, et c'est là qu'on se retrouve avec... On fait péter des bulles, c'est très sympa, on vient à la normale. Mais à côté de ça, on fait aussi des problèmes sur des structures qui étaient juste un peu surendettées. prix, quoi. Donc c'est parfois gênant.
Revlon, vous avez pris l'exemple.
Non, mais Revlon,
c'est...
Ouais, oui, mauvais
exemple.
Mais ils font défaut. Non, mais ils font défaut. Mais il y a quand même pas mal de. Enfin, on voit sur le secteur high yield, on commence à avoir des écartements de spread qui vont poser des problèmes.
Mais rappelez-vous, il y a quelques semaines ou quelques mois ici même, les gens disaient il y a trop d'entreprises zombies qui sont. Oui. Il y a des bulles, tout ça est retenu. Et maintenant, on se plaint de ce que c'est en train de se nettoyer. On n'a pas le temps de réagir à la bêtise que je viens de dire. On se retrouve en deuxième partie d'émission.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve pour ce deuxième partie de l'émission. Vous allez voir, là, on va vous remonter le moral. Là. Alors, on va parler marché, on va parler performance de gérant. Vous allez voir, alors là, c'est le feu d'artifice. Alors, on se retrouve avec Christopher Nemi qui est venu. Vous êtes normal aujourd'hui.
Ouais, juste
rajeuni. Normal, vous avez un peu rajeuni. Marisol qui a fait un grand retour. Ça fait quelques semaines qu'on ne vous avait pas vu. Patrice qui est très énervé. Je sais pas qui vous a énervé quand c'est à Charles.
Les banques centrales. Je rêve d'être banquier central un jour.
Voilà, et Alain qui est déjà donc en fait il n'est pas là. Hein. Il est de chez lui en tenue de maison.
Un peu près,
oui. Mais c'est incroyable avec la nouvelle technologie. On a l'impression que vous êtes vraiment sur le plateau.
C'est le web, c'est le Mélenchon 3. Ah ouais, c'est le métaverse.
C'est le Mélenchon vert. Allez, on attaque les marchés. Vous allez voir. Alors là, c'est fabuleux. Alors le CAC, on est quasiment à 18% depuis le début de l'année. Le S&P à moins 23%. Le Nasdaq à moins 32%. J'ai envie de rire, mais c'est pas drôle. L'Eurostock à moins 20%. Le Nikkei moins 8%. Shanghai moins 10%. MSCI World moins 14%. Et l'Angleterre à moins 4,6%. Bon, vous avez compris.
C'est les performances obligataires.
Et crack évidemment obligataire. Alors... En gros, c'est la déroute. Hein. Ça a été la panique, on peut dire, jeudi. Alors, il y a eu une petite réaction, comme disait Patrice, plutôt favorable à l'annonce de la hausse des taux aux États-Unis. Et puis, très vite, le lendemain, ça a été la panique. 4% de baisse sur le Nasdaq. Repricing massif, hein, donc réajustement des prix des actifs. Bah, réajustement hein, par rapport au niveau de taux d'intérêt et d'inflation. Juste avant de vous demander où vont les marchés, j'ai une question à vous poser. On a parlé tout à l'heure, on n'a pas fini totalement notre conversation sur les marchés qui paniquent et les banques centrales qui paniquent. Est-ce que, Marisol, Michel, vous votez pour un soft landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur d'une manœuvre qui est très difficile que font les banques centrales actuellement, ou plutôt un hard landing ?
Moi, je pense que les banques centrales vont demeurer pragmatiques et qu'on devrait réussir à avoir un soft landing, j'espère en tous les cas.
Patrice ?
Non, je serais plutôt dans le hard landing, c'est-à-dire ça va piquer, ça va faire mal, et je pense que les banques centrales ont un train de retard dans l'ajustement et auront un train de retard dans l'assouplissement nécessaire et le changement de communication et de pied de politique qui sera nécessaire un jour ou l'autre.
Christopher Demick.
Soft landing, mais un gros point d'interrogation sur l'immobilier américain. Je pense que c'est vraiment ça qui pourrait changer la donne et faire passer du soft au hard landing. Et pour l'instant, en tout cas pour elle, sans pas s'inquiéter de ce qui se passe, y compris sur les taux hypothécaires, qui est très inquiétant, ou même le
au contraire, lui, ça l'arrange puisqu'il veut.
Oui, mais il faut que ça se dégonfle lentement. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Et vu les niveaux de bulles aux États-Unis, c'est inquiétant quand même. Donc,
Alain Pidou, soft ou hard?
On aura l'impression d'un soft landing avec des accidents. Alors, je pense qu'effectivement sur l'immobilier, puis des accidents de crédit et des accidents sur certains pays.
Alors, puisque je vous tiens. C'est une image. Hein.
Oui, j'espère.
Les marchés, où est-ce qu'on va ?
Alors les marchés, déjà, je compatis pour les gérants qui ont des allocations, gérants sous mandat et autres, qui se retrouvent à expliquer dans quelques jours, à la fin d'un semestre, on va faire moins 15 sur un fonds, sur un mandat prudent. Alors peut-être un peu mieux si on a pris un peu moins de risques, mais on peut se retrouver sur des niveaux, sur des performances comme ça, pas facile à expliquer. Donc les marchés où ils vont.
Si vous ne savez pas, dites-le. Hein.
Non, je pense que, enfin moi, ce que j'attends, c'est je vois un peu fleurir à chaque fois qu'il y a une baisse de 3-4%, capitulation. Ça ressemble à ça.
Non,
mais la réalité, c'est que la réalité, c'est qu'on l'a pas eu parce qu'il faut attendre un pic de stress, un pic de volatilité. On en est assez loin en fait. Hein, nous, on regarde des indicateurs techniques de stress globaux. On est en train d'approcher gentiment, façon de parler, des niveaux de stress pratiquement, assez importants, presque de crise. Mais on n'y est pas. Donc tant qu'on n'a pas eu ça, je pense pense que le marché n'est pas purgé. On voit des sorties. Hein, on fait quand même 18 semaines de sorties sur les actions européennes. C'est sorties, énorme.
Sorties nettes. Les...
Bah, de sorties nettes des
fonds. De gens qui désinvestissent.
Des gens qui désinvestissent, d'investisseurs institutionnels qui sortent des fonds européens. Même chose aux États-Unis. Hein, toute la partie obligataire, la partie émergente, tout ça, c'est des sorties. Donc tout, jusque-là, ça va à peu près. On arrive à faire la liquidité. Mais,
jusque-là, tout va bien.
C'est oui, peu, c'est un peu
le,
ça. Oui,
le
c'est,
gars qui descend, qui s'est mais, jeté en, par la fenêtre.
Encore une fois, je pense que à la, parce que ce qu'il faut voir aussi, ça c'est quand même le côté positif, il y a quand même les entreprises, non, les entreprises continuent
de elles vont bien.
Elles se sont
elles ont un trésor.
Oui, et puis elles ont une capacité, on l'a vu à plusieurs reprises, chaque fois on se dit oh, ça va craquer, mais la réalité c'est que les entreprises elles vont très très vite pour se réajuster. Donc on peut penser qu'elles le referont encore cette fois-ci, mais simplement tant qu'on n'a pas eu ce dernier mouvement, c'est assez difficile de voir qu'on va remonter.
Marisol. Alors, où vont les marchés?
Bah, je pense qu'ils vont encore baisser. On n'a pas encore capitulé. Je suis d'accord avec Alain. Il y a quand même des opportunités qui commencent à se dessiner. Bah, globalement, les marchés en termes de valorisation, ils ont perdu à peu près 30% par rapport à leur pic en ratio cours sur bénéfice. Et le pic, il était plutôt en milieu de l'année dernière en termes de valorisation. Mais grosso modo, on est resté sur des niveaux qui sont pas des affaires à proprement parler. Donc aux États-Unis,
en général.
Oui, en général. Aux États-Unis, on est revenu tout juste après moins 20, moins 30, comme les chiffres que vous avez cités, on est revenu à la moyenne de long terme en termes de valorisation. En Europe, on est un petit peu au-dessous, mais vous savez que la valorisation, c'est cours sur bénéfice. Et pour moi, les bénéfices, les prévisions des analystes sont trop élevées. Ils ne tiennent pas compte de cette dégradation forte de l'environnement qu'on a eue. On voit sur le plan donc, macro, conditions financières, pression sur les coûts de toutes sortes. Donc, les prévisions de bénéfices des analystes vont devoir baisser. Et tant qu'on n'aura pas eu déjà un début de stabilisation de l'inflation et puis, d'un autre côté, un début de révision en baisse des bénéfices de la part du consensus, on ne pourra pas se stabiliser. Et puis, sur le plan technique, Alain en a parlé, on a cassé des niveaux importants de chartisme. Donc, on va plus bas, normalement. Donc, on n'est pas encore survendu. On est... un petit peu au-dessus de la survente, donc on devrait normalement toucher des points plus bas. Donc sur le CAC 40, on a cassé les 6000, on est à 5009. Le prochain point, c'est 5008. Et ensuite, on va à 5005 si jamais on ne tient pas les 5008.
Voilà. Christopher Demick, qu'est-ce que vous dites aux clients affolés de Saxo Bank, j'imagine?
C'est assez compliqué, mais effectivement, on a un discours qui est un peu de vérité, à savoir que aujourd'hui, je pense qu'il est très clair qu'on ne peut pas considérer que la baisse soit terminée. À mon avis, même l'été va être assez compliqué parce que vous aurez une conjonction de facteurs, bien sûr, sur la question de l'inflation, mais au-delà de cela, on voit que la baisse de la liquidité est très inquiétante. Vous avez un retour qui était assez fort de la volatilité, y compris sur les devises. J'ai regardé avant de venir, par exemple, sur l'euro-yen qui bougeait pas tant que cela. Vous avez eu une fluctuation quasiment de 350 points en une semaine.
Merci les banques.
Le franc suisse, bon, bien évidemment, avec la décision, mais même l'euro-dollar. Donc, on est sur des fortes fluctuations. Donc, on est sur un environnement qui est beaucoup plus imprévisible. Alors, bien sûr, après, on peut regarder il y a plein de valeurs qui sont fortement décotées. Bien sûr, sur les mid-cap, on voit très nettement que la plupart, c'est quand même dans le rouge. Il y en a certaines qui réussissent à s'en sortir. On
très
a
peu.
Très, très peu, effectivement. On a des PER qui ont fortement baissé, y compris sur des grandes valeurs, Hermès, etc. Mais la réalité, rentrer sur un marché avec tant d'incertitudes, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est aujourd'hui plus se couvrir, si possible faire le dos rond, mais très, très clairement, c'est pas du tout le moment où il faut se dire c'est terminé et on va sur un élément qui sera positif. Et je pense que j'ajouterais la communication qui est un peu, alors je sais qu'on n'est pas d'accord, mais je trouve qu'à court terme, la communication, jamais d'ailleurs.
Parfois.
C'est vrai, sur les bulles. La communication des banques centrales à court terme est quand même pas extrêmement limpide, et ça, je pense aussi, ça va créer des tensions, notamment cet été. Je pense que l'été va être très, très compliqué.
L'été va être chaud.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'il est déjà en tenue d'été à l'Institut.
Exactement. Il manque Eric Lewin pour
bronzage. Mais lui, il profite du soleil à 40, il ne peut pas être dans un studio.
Ah oui.
Patrice, où vont les marchés?
Alors, la question qu'on va avoir dans très très peu de temps, c'est...
C'est moi, ça.
C'est
Eric Lewin qui m'appelle.
Donc, la question, effectivement, certainement, qui est en train de vous poser au téléphone, c'est est-ce qu'il y a encore une croissance des bénéfices? Et si la réponse est oui, en fait, on pourrait peut-être avoir une séquence. Là, je distille un peu d'optimisme.
Ah.
comme on l'a observé en 2020 ou en 2021, où en fait c'était la saison des bénéfices et la déclaration des entreprises qui sauvait un petit peu l'environnement effectivement extrêmement négatif que l'on a
tous. Sauf que Marisol nous dit que les nouvelles vont pas être bonnes.
Alors les nouvelles vont pas être bonnes, le consensus est trop haut. Bah oui. Mais je veux dire, les nouvelles, on est tellement négatif quelque part que les nouvelles seront bonnes si les entreprises sont encore capables de nous livrer 3, 4, 5% de progression sur cette année. Ça peut déterminer un plancher, en fait, dans tous les risques baissiers qui ont été mentionnés. Mais effectivement, l'imprévu, c'est la variation de l'inflation. L'imprévu sont les erreurs de communication des politiques centrales. Et puis, il faudra pour les marchés de digérer encore les prochaines hausses de taux, juillet, la Banque Centrale Européenne, encore la Fed. On va voir effectivement comment le prix des actifs réagit. Pendant ce temps-là, on ne peut pas prendre d'initiative parce qu'effectivement, en tant qu'économiste, moi j'ai un manque certain, notable, et c'est peut-être une des rares fois où il y en a autant de visibilité. Ouais, en 2008, on arrivait à dire quelque chose. En 2011, on arrivait à dire quelque chose, même avec tous les risques. Là, c'est une conjonction dans laquelle on n'a résolu aucun des problèmes que l'on a depuis le 1er janvier. L'inflation, la volatilité, la guerre en Europe. Pour l'instant, c'est dans des images, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de cessez-le-feu. Et là, en plus, on remet une couche de durcissement, de resserrement monétaire. Comment les entreprises vont résister à ça? C'est elles qui vont nous faire le cycle, en définitive.
Marisol, vous voulez...
Alors, juste pour préciser, je voudrais donner le chiffre du consensus. Le consensus des analystes prévoit 11% de croissance de bénéfices cette année par rapport à l'année dernière où tout allait bien. Tout allait bien, la croissance était très soutenue, les taux d'intérêt étaient au plus bas, donc les entreprises s'endettaient dans de très bonnes conditions, les matières premières étaient à un bas niveau, etc. Il me semble complètement impossible d'arriver à réaliser ces ambitions de croissance de 10%. Donc, il y aura une révision forte. Et même si on faisait 3%, ça ferait quand même 7% ou 8% de révision en baisse. Et c'est toujours pas fait. Donc, il va y avoir des warnings, il va y avoir des révisions en baisse fortes, des prévisions.
Mais le marché, il a déjà un peu...
Il a déjà un peu intégré.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, moi, il me semble, sur les résultats du premier trimestre, c'est qu'ils étaient plutôt pas mauvais.
Oui,
il y avait des orientations de la part des entreprises qui étaient un peu moins positives et du coup la plupart se sont fait découper en rondelles.
Ah ben, donc le sujet après ça.
Moi je pense que la dégradation est à venir.
Pardon, allez-y, vas-y, c'est bon.
Allez-y. Allez, on va passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à un sujet que je voudrais poser justement à nos gérants. Comment gérer un portefeuille d'actions dans une telle tourmente et de façon générale, comment gérer un portefeuille dans cette tourmente? Parce que Alain l'a dit tout à l'heure, c'est passé rapidement, mais les portefeuilles prudents vont se casser la figure. Dans un portefeuille prudent, normalement, il y a à la fois des actions et puis il y a des obligations, des emprunts. Et puis généralement, quand les actions baissent, ben on se protège avec les obligations. Sauf que là, on a la double peine, c'est-à-dire qu'on vient de se taper un crack, on peut appeler ça quand même un crack de plus de 20% de baisse sur les actions, et un crack sur les obligations. Comment on fait? Vous gérez, vous faites de la gestion sous mandat. Comment vous faites dans des contextes comme ça?
Alors déjà, il faut être prudent dans son allocation. Donc c'est vrai que le problème, c'est que la classe tampon, la classe tampon obligation n'a pas joué son rôle. Mais il y a encore le monétaire ne rapporte rien, mais ne baisse pas. Ça nous protège en partie. Donc, en fait, il faut garder du cash dans les portefeuilles. Que ça soit des portefeuilles dynamiques, équilibrés ou prudents, il faut garder du cash dans les portefeuilles. Quand vous avez des apports qui arrivent sur vos mandats ou sur vos fonds, vous investissez très, très progressivement. Donc, il faut
rester liquide dans la mesure du possible. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vous donnent mandat d'acheter des actions. Ils ne vous donnent pas mandat de garder de l'argent sur un compte.
Bien sûr, mais vous avez un certain timing pour investir. D'accord. Et il ne faut pas se précipiter puisqu'effectivement, on voit encore un potentiel de baisse. Il faut garder du cash et investir progressivement parce que quand même, les cours ont quand même bien baissé. Donc, on peut avoir des surprises un petit peu dans tous les sens. Donc, on ne peut pas rester complètement en dehors des marchés d'actions à ces niveaux. Après moins 20 ou moins 30, il faut commencer
à
investir.
Mais là, par exemple, on entend... je vais passer la parole à Alain. Alain, vous nous dites... ça va continuer peut-être un peu à baisser, c'est pas terminé. Donc quand vous étiez gérant avec des portefeuilles, est-ce que vous du coup vous coupez, vous vendez parce que vous dites ça va continuer?
Alors,
à baisser.
Alors là, je pense qu'il y a pas mal d'actifs, on peut plus rien faire. C'est-à-dire que je pense à ceux qui se sont fait prendre dans des actifs un peu spéculatifs.
Ouais, bon ça. Ceux-là,
il faut les mettre de côté et peut-être même pour plusieurs années. C'est-à-dire même une décennie. Okay. Après, effectivement, moi je reste assez aligné à l'idée de dire il faut garder du cash en ce moment et puis revenir sur les marchés, pourquoi pas, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent faire des investissements progressifs, mais ne pas aller faire les malins sur dette émergente, high yield, et actions émergentes, je pense que c'est un peu tôt. Peut-être la Chine, mais enfin moi j'aime pas la Chine, mais enfin je peux comprendre qu'on soit intéressé par la Chine.
Pourtant c'est ESG.
Oui, c'est vachement ESG, la Chine, oui, tout à fait. Ouais. Surtout
respectueux de toute la gouvernance.
C'est ça. Non, par contre, je pense qu'effectivement il y a eu pas mal de belles valeurs qui ont sévèrement reculé. On peut ponctuellement revenir sur ce type de valeurs, même sur le Nasdaq, commencer à éventuellement refaire un peu de position dessus, mais certainement pas en allant au maximum de ses possibilités parce que ça va tanguer. En tout cas, éviter les risques et ne pas aller faire les malins sur les marchés en ce moment, je pense que c'est une bonne attitude.
Marisol, le mot de la semaine pour vous?
Alors moi, pour moi, le mot, c'est choc. Choc, parce qu'on a une combinaison de chocs qui nous arrivent depuis le début de l'année et qui s'auto-entretiennent. Donc, bien sûr, le choc inflationniste, pour commencer, le choc de matières premières, que ça soit matières premières énergétiques, industrielles ou agricoles, choc sur la croissance, et puis, bien sûr, choc sur les marchés, comme malheureusement, nous le subissons tous les jours, depuis quelques mois.
Patrice, le mot de la semaine.
Récession. D'où vous avez compris d'où il vient, avec effectivement cette.
Mais moi, je l'appelle de mes voeux et vous la craignez.
Oui, je crains parce qu'une fois que le diable est sorti de sa boîte, on a du mal à le faire rentrer.
Le diable, il est sorti de sa boîte il y a 2 ans, il y a 3 ans,
oui.
Et il est sorti de sa boîte avec le Covid quand on a mis trop d'argent dans le système. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'on essaye de le faire rentrer.
Ça n'a pas créé de chômage et ça n'a pas appauvri les gens. Là, on parle en fait effectivement.
Ça a produit des bulles qui vont appauvrir les gens.
Alors, ces bulles-là, effectivement, vous en avez parlé, elles sont peut-être en dehors de certains marchés réglementés ou de certains marchés régulés. Donc là, ces personnes-là, ces investisseurs-là ont pris un risque et ils étaient censés connaître le risque, mais avec des taux d'intérêt qui étaient à zéro, effectivement, il y avait la perception qu'il n'y avait pas de risque. Donc là, je parle d'un risque qui est différent, c'est-à-dire remontée du chômage et perte de consommation et perte d'opportunité dans la consommation. Donc là, pour moi, le coût social, et je me rappelle effectivement 2007-2008, il a fallu 10 ans 2018-2019, pour retrouver les niveaux de croissance.
Mais on avait un problème systémique. On n'a pas de problème systémique. On avait un problème systémique, on avait une industrie financière qui ne fonctionnait plus.
La grande incertitude que l'on a aujourd'hui, c'est est-ce que l'inflation est devenue systémique ou pas? Ou est-ce qu'on peut retourner, en fait, au système de désinflation que l'on avait après 2007-2008?
Ça sera le sujet d'une émission entière, ça. Très rapidement.
On a géré pendant des années avec Tina, hein, y a pas d'alternative, et maintenant on va gérer avec ce que j'appelle VUCA, hein, c'est-à-dire c'est volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, c'est-à-dire qu'on va être probablement pendant plusieurs années dans un marché comme ça avec une succession de chocs, hein, je reprends aussi le mot qui est des chocs, une reprise de très forte, mais avec chaque fois des difficultés, c'est-à-dire qu'on se retrouve en des moments, et je pense que c'est extrêmement dur à analyser sur le plan économique, avec des chiffres qui sont assez contradictoires,
évidemment,
de consommation, alors qu'en même temps les entreprises ralentissent, des problèmes sur le crédit immobilier, en même temps certains segments immobiliers qui fonctionnent très bien. Donc on va avoir cette période et je pense qu'on est parti pour
parce
plusieurs années.
Parce qu'on est dans une période de transition, c'est-à-dire qu'on sort de ce cycle de liquidité
C'est un moment où moi je pense que les fortunes se font.
C'est un moment de vérité.
Oui, c'est un moment donné où les fortunes se font et se défont. Hein. C'est l'inflation, la guerre et les révolutions technologiques.
Évidemment.
Et je pense
voire sociales.
Oui, alors les révolutions technologiques, on va y avoir droit avec la transition énergétique. Et je pense qu'on est dans cette période-là, mais ça ne va pas être linéaire.
Christopher. Comme on est tous trop optimistes, j'ai décidé de parler de licenciement.
Ouais.
Mais je ferai.
Vous êtes parlé avec Patrice.
Voilà, c'est ça. J'ai un peu calculé sur la semaine qui vient de s'écouler. On a aux États-Unis eu des grandes entreprises qui ont annoncé pour 100 000 licenciements. On s'en souvenait, on a parlé effectivement du marché de l'emploi qui est en très très bonne forme, etc. Mais les entreprises commencent à s'ajuster à la donne inflation plus permanente et effectivement au risque éventuellement de récession. Et ce qui est assez intéressant sur ces 100 000 destructions d'emplois, dont certaines sont vraiment effectives, donc on va les retrouver dans les prochains chiffres dans l'emploi, on a tous les secteurs d'activité. L'immobilier, vous avez Warner Bros qui est dans un complètement autre domaine, vous avez bien sûr aussi certains, on parlait de poches spéculatives, Coinbase notamment qui fait partie des entreprises qui licencient. Donc ce sont vraiment, là on voit que les entreprises commencent à ajuster, on va avoir des ajustements en termes de business plan, donc effectivement ça va être un peu compliqué je pense.
Mais on nous a expliqué qu'il y avait un nombre record d'offres non pourvues, donc est-ce que c'est j'entends l'inquiétude de Patrice, mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de réajuster d'ajuster l'offre et la demande? Je veux dire, on nous expliquait il y a encore un mois ou deux mois qu'on n'arrivait plus à embaucher et qu'il y avait trop d'offres et pas assez.
Oui, et en tout cas, du point de vue en tout cas purement inflation et boucle prix salaire, ça peut être effectivement positif parce que ça reste quand même un problème d'avoir des boucles prix salaire aussi élevées aux États-Unis.
Même si Patrice a raison, évidemment, ça sera un problème social. Ouais. Alors, on va parler du. Je sais pas si ça peut toujours s'appeler le top 3. Je vais vous expliquer. Parce que normalement, le top 3, c'est tout en haut. Mais là, il se trouve que le tout en haut est tout en bas. Donc, je sais pas comment on peut appeler ça. Et même quand j'ai reçu les résultats, je me suis dit, il doit y avoir une erreur. Alors, tenez-vous bien. Le meilleur des gérants, qui est Sébastien Corchat, est à moins 9%. Pierre Chang est à moins 9,3%. François Chollet à moins 10,8%. C'est-à-dire que, bon, il faut dire, hein, l'émission, je crois que ça doit faire, je sais pas, 10 ans. On n'a jamais, j'ai jamais eu déjà, enfin, il y a eu très peu de périodes où les trois performances, les meilleures, étaient négatives. Mais alors là, des performances, la meilleure qui est à 9%, bon, ça, c'est juste hallucinant. Bon, ben, c'est pas grave, on va quand même continuer, hein, on tient la barre. Alain, je commence avec vous, je vais vous donner votre portefeuille, vous me dites ce qu'on garde et vous me dites ce qu'on va acheter aujourd'hui.
Pas cette tête.
Infineon.
Non, mais on va passer. On garde.
On garde Saint-Gobain, Air Liquide, ouais. Sika, First Solar, Fortinet, Eramet, Norsk Hydro, pardon, Evoca Water Technology. Tout ça, on garde ?
Bah oui, on garde. Je fais partie des collés, en fait, hein, parce que c'est pas mal de boîtes qui étaient un peu chères.
Non, et Ramet, c'est
oui, oui, une valeur en hausse. Oui,
et bon. Je peux vous dire, en ce moment, sur les portefeuilles, dans tous les portefeuilles, j'ai regardé toutes les valeurs, il y a que, depuis le début de l'année, là, dans tous les portefeuilles de tous nos gérants, il n'y a que 5 valeurs en hausse sur des centaines de valeurs.
Et encore, hein, on était monté à 150 il y a quelques semaines, on est à 110,
Qu'est-ce qu'on achète ?
Bah, on va continuer dans la nature et les parfums. Vous avez besoin un peu de choses comme ça en ce moment. Donc là, j'ai choisi Simrise. Donc, c'est des gens qui transforment des produits naturels en arômes pour la nutrition ou bien en parfums, en cosmétiques. Donc,
c'est une boîte qui est cotée où ?
En Allemagne.
D'accord.
Donc, une bonne activité, qui a plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, une rentabilité qui augmente régulièrement. Ils sont très bien notés sur le plan ESG. Parce que bon, ils sont sur un segment qui est favorable à ça, mais moyennant quoi, enfin, c'est quand même avec l'enjeu en ce moment de la biodiversité qu'il faut préserver. C'est un vrai sujet pour eux parce que bah, ils prennent des produits naturels et ils les transforment. Donc c'est quand même assez sensible pour la nature. Je trouve aussi que ils ont depuis longtemps fait attention à la diversification, c'est-à-dire que leurs approvisionnements sont très divers et leur commercialisation également sont très diverses avec des axes qui sont là aussi très divers parce qu'ils vont de l'alimentation, ils font de l'alimentation pour animaux, de l'alimentation humaine et des arômes hein, pour mettre dans des produits et puis ils vont dans les cosmétiques donc une activité qui est assez diversifiée
donc Simrise coté en Allemagne et achetable à Paris voilà.
Et là aussi, c'est un dragon
hein
le logo c'est un dragon.
Très bien. Allez, non, Marie, c'est très intéressant cette
histoire.
Cette info était vraiment essentielle.
Merci.
Merci pour cet apport, cette information qui est vraiment Christopher, on vous attendait là. Marisol, je vous donne votre portefeuille. Je rappelle que vous nous aviez communiqué, vous n'êtes pas venu depuis plusieurs semaines, mais vous aviez pris une position Orpea que vous avez sortie au moment des nouvelles. Quand on a en portefeuille, donc vous avez réagi très vite hein, sur Orpea, quand on a une position comme ça qui perd. Et qu'on n'a pas de visibilité, c'est ce que vous avez fait, on coupe tout de suite.
Hein. Il y a vraiment un problème de gouvernance très sérieux. On avait de gros doutes dès le début, et puis se sont révélés malheureusement exacts au fur et à mesure. On l'a sorti, bien
très
sûr, en forte baisse, mais depuis, le cours a plus que divisé par deux.
Ouais,
donc, il faut réagir dans ce genre de
situation. C'est lié au fait que les copains d'Alain Pitou avaient mis un truc ESG en disant c'est fabuleux, ça
exactement. Peut être génial.
C'était un très bon élève, un très bon élève sur le plan ESG. C'était un peu du flan, mais ils étaient très bien notés.
Ils ont coché les cases.
Vraiment, Alain, vraiment.
Et alors, il faut faire sa propre analyse.
On a du FH, du Capgemini, du STM, du CRH, du Pernod Ricard, du Crédit Agricole, du Airbus et du Microsoft. On garde tout ça, j'imagine.
Alors, je ne garde plus, bien sûr, Orpea, hein, comme
oui,
je
vous l'aviez dit, mais ça vous
on
dit
garde le reste. Oui.
D'accord. Qu'est-ce qu'on achète ?
Alors, je voudrais acheter Schneider, qui est un très beau dossier. Donc Schneider, vous connaissez, hein, c'est leader mondial de l'équipement électrique et de l'automatisation industrielle. Ils sont présents sur tous les continents, très bonne diversification géographique et notamment forte exposition à l'Asie où ils font 40% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est un moyen de jouer l'électrification et la transition énergétique. C'est aussi un très bon candidat ESG.
Pourquoi la transition énergétique, Schneider ?
Parce qu'en fait, ils permettent à leurs clients de faire de grosses économies d'énergie.
D'accord.
Via les installations qu'ils proposent.
C'est pas du pipeau, ça ?
Non, du tout.
D'accord.
Du tout. Et puis là, il n'y a pas de côté humain.
C'est pas un pipeau à Alain Pitou.
Excellemment bien noté sur le plan.
Très bien noté. Et ils sont dans cette volonté.
Oui, monsieur.
Ils sont dans ce schéma de transition énergétique depuis très longtemps. Ils ont été pionniers en la matière. Alors, c'est un très beau dossier. Mais on a du mal à l'acheter parce que traditionnellement, c'est une valeur très chère. Et là, il faut remarquer.
C'est les sols.
C'est fait vraiment massacrer depuis le début de l'année. Elle a perdu 32%. Donc, elle redevient vraiment attractive en termes de valorisation. Elle vaut environ 15 fois les résultats pour un taux de croissance de l'ordre de 10% par an. Donc ça nous paraît attractif. Et puis d'autre part, c'est le moyen de jouer la réouverture de la Chine après 2 mois de confinement, puisqu'ils font...
Ah, c'est pas mal. Donc il y a plusieurs thématiques dans la même valeur.
Oui.
Vous approuvez,
Alain? Ah, totalement. En plus, c'est vrai que jouer la Chine de l'extérieur, c'est mieux que de acheter des valeurs chinoises.
C'est plus sécurisant.
Voilà.
C'est vrai.
Bon, je ne sais pas si on aura remonté le moral à ceux qui nous ont écoutés et entendus, mais en tout cas, je pense qu'on a essayé d'expliquer ce qui se passe en ce moment et ce n'est pas simple. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission un peu particulière. Vous verrez. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir ou revoir et revoir et re-revoir en replay, podcast sur RMC BFM Play et toutes les plateformes de podcast. Et comme je dis chaque semaine, ça cartonne.